Bonjour et bienvenue dans Graffiti Cinéma. Cette semaine, on parle de nanar. Et on va dédier cette émission à Bernard Tapie. Car le terme qui désigne les très mauvais films sympathiques est indirectement dérivé de ce prénom commun qui a été grandement inspiré par l'homme d'affaires qui est disparu au moment où j'enregistre ce son, le 3 octobre. Allez, tout de suite, on va un peu plus rigoler et on va avoir une pensée réjouie pour tous ces films qui parfois nous font rire à leurs dépens. La nanarologie, c'est maintenant.
On vous paye, il me semble, non ?
Hey, c'est quoi le texte ?
Comment on dit déjà ?
J'ai oublié.
Où est-ce que vous voulez en venir ?
Laisse tomber.
Graffiti cinéma.
Tcha ! Graffiti cinéma.
Depuis le temps que nous patientons dans ces chambres noires pendant le confinement, on avait oublié à quel point le cinéma en salle nous avait manqué. Et parmi toutes les manifestations, les événements que nous avions l'habitude de suivre, un seul se pose la question du développement durable et également de l'obsolescence programmée de tous ces films, la nuit Nanarland, qui fêtait cette année ses 20 ans le 25 septembre au Grand Rex.
2, 1...
La nuit Nanarland, c'était encore une fois 4 films comme d'habitude, Strike Commando, Nbuyu Krumruk, c'est du turc et j'ai pas fait LV2 turc, Suède, Enfer et Paradis et Piège Mortel à Hawaï qui ouvrait la soirée. On vous propose ce soir, dans la première partie de notre émission, d'écouter tout simplement des réactions à ces films-là pour prendre le pouls d'une soirée essentielle, toujours dans l'univers cinématographique, peut-être même cinéphilique français. Et dans la deuxième partie de l'émission, nous vous proposons un tour de table avec tous les amis sur la question du nanar. Faut-il encore regarder des nanars aujourd'hui en France et dans le monde éventuellement ? Et également, on fera un retour sur l'actualité dans cette dernière partie, les séries, les films que toute la troupe a pu aimer ces dernières semaines au mois de septembre. Et oui, c'est important aussi d'aimer d'autres choses que des nanars. C'est même plutôt conseillé pour la santé.
Viens ce foutu serpent de merde.
Oh, c'est vraiment affreux. Il a bondi des toilettes.
Piège mortel à Hawaï, un film d'Andy Sidaris qui date de 1987. Un synopsis très compliqué. Accrochez-vous les amis. Deux agents du FBI trouvent un petit hélicoptère dans lequel se trouvent des diamants. Leur propriétaire, un trafiquant de drogue, va tout faire pour les récupérer. Derrière ce synopsis assez succinct... derrière ce synopsis assez succinct du tonton halluciné, je vous propose directement de découvrir, après quelques extraits choisis, les réactions du public récoltées par Rebecca pendant une soirée de folie, car Piège mortel à Hawaï ouvrait la soirée Nanarland.
Allô, ouais, j'entends plus là, je m'entends plus.
C'est pas possible.
Bah là, je m'entendais, mais je m'entends plus. 1, 2, 1, 2.
Mais si tu veux voir mon monstre, je vais te le montrer. Autant que tu voudras.
Bonsoir, messieurs, dames. On est Graffiti Cinéma. Je voulais savoir, est-ce que c'est la première fois que vous venez à Nanarland ?
Moi, ça fait 14 ans. Moi, je fais depuis la troisième nuit excentrique, donc ça fait depuis 2007. Que j'y vais.
Et là, qu'est-ce que vous pensez donc de la 20e édition, la 5e édition au Grand Rex ?
C'est plutôt intéressant parce que c'est une version anniversaire et entre autres, ce que je trouve le plus intriguant, c'est les cuts qui sont des reprises d'anciennes années. Et donc, j'ai envie de les revoir avec 10-15 ans de retard, enfin, nous dire ouais, le recul que ça a pris sur des extraits qu'on a vu une fois et qu'on a gardé en tête, qu'on a fantasmé, et se les revoir et se les reprendre avec une salle en plus 4 fois plus grande qu'à la Cinémathèque. Donc je suis assez impatient de voir comment ça va continuer, les rires toute la nuit.
Je pense que ça va aller crescendo, moi je pense.
Ouais, alors je sais pas parce que le prochain film c'est Nbuyu Krumruk et je pense que la salle n'est pas prête. Moi, je me rappelle l'avoir vu à l'époque sur mon ordi sans sous-titres, avec une qualité un peu pourrie. Donc, je suis très curieux de le voir sur grand écran avec sous-titres et entendre les réactions des gens sur un truc qui va, je pense, échapper à tout sens commun.
Je pense que ça peut être assez fascinant comme réaction.
Ouais, je pense là, ça, les gens vont aller de la surprise à l'effroi, mais toujours dans le rire en tout cas.
Mais de toute manière, à Nanarland, on est là pour rire. Et je voulais savoir ce que vous avez pensé là des dialogues de pièges. Alors, c'est Piège Fatal à Hawaï hein, qu'on a regardé.
Ouais, ouais. C'est spécial parce que je trouve c'est. Ils avaient expliqué le chef de Nanarland disait que c'est un nanar facile d'accès. Je suis d'accord, c'est pas un nanar que je kiffe absolument, mais je trouve qu'il a des bons dialogues par moment. Mais par rapport aux extraits qu'on a entendus où des fois il y a des doublages vraiment pourris, là on a quand même sur des doubleurs qui savent à peu près tous jouer. À peu près, il y en a un ou deux ils savent pas jouer, mais en moyenne ils sont à peu près talentueux juste et effectivement ça ne veut rien dire ce qu'ils racontent et j'ai l'impression que même eux ils s'en doutent quoi, parce qu'ils essaient de faire du mieux qu'ils peuvent, mais ça n'a aucun sens et l'histoire elle est un peu secondaire quoi, donc bon.
Oui, c'est ça qui nous fait rire quelque part. Et moi, ce qui m'a marqué, je sais pas pour vous, mais la place des femmes, comment on les voit dans ce film.
Oui, oui, on en parlait justement avec mes amis. On se disait, c'est marrant, c'est un film. Ça a beau être nanar, ça a beau être un peu sexiste parce qu'elles sont tout le temps seins nus. C'est peut-être plus féministe que certains films actuels qui se prônent féministes parce que mine de rien, elles ont beau être seins nus, elles servent de leur charme pour buter des gars. Elles ont des guns tout le temps, c'est elles qui tirent le plus, c'est elles qui sont tout le temps sur des ULM, dans des jeeps et elles font tout le boulot quasiment. Alors que les mecs, les trois quarts du temps, ils sont en train d'attendre, ils attendent devant un hôpital, ils attendent au resto. Et il y a qu'à la toute fin où ils ont un peu d'action quoi. Et même eux, ils savent pas bien tirer. Il y en a un, il sait pas tirer et tout. Enfin, c'est assez drôle à ce niveau-là quoi.
Oui, on inverse un peu les rôles, en fait, c'est un peu la femme d'avant-garde.
Bah, je pense que c'est vraiment propre aux années 80, avec le truc de girl power des années 80, et le réalisateur, ils avaient expliqué, c'est un mec qui clairement aime les nanas, mais il les aime très sincèrement, je pense. C'est-à-dire qu'il aime autant les voir les nichons que les voir buter des gars, quoi.
À l'action. Exactement. Les femmes à l'action. Merci Cédric pour ce petit entracte. Très belle soirée Nanarland.
Four of America's finest ready and willing to pay the price for paradise.
Carla, Lise, bonsoir. Je vais savoir qu'est-ce que vous avez pensé de ce premier film et déjà, est-ce que c'est votre première fois à Nanarland ?
Pour moi, oui, c'est la première fois ici. Et bah, c'est vraiment un jour particulier pour une première fois. Je savais pas trop à quoi m'attendre, mais bon... Effectivement, c'est vraiment un genre très spécial.
Piège Fatal à Hawaï, c'est une bonne entrée en matière.
Oui, franchement, ça va. Je pense qu'il y a pire en film de nanar.
Bah, moi, c'est ma troisième année, du coup. Et bah, pour moi, c'est juste un bon film de nanar. Un bon premier film, en tout cas, pour lancer la soirée. Et franchement, c'était cool. Il y avait une trop bonne ambiance. Et voilà. J'espère que ça va continuer comme ça tout au long de la nuit.
Et vous avez quel âge, du coup ?
Moi, j'ai 17 ans.
Et ça fait 3 ans que vous fréquentez Nanarland ? C'est énorme !
En fait, mon père s'occupe de Nanarland, donc du coup, forcément, oui, je suis bénévole.
Enchantée, fille d'Emmanuel Rossi.
Il m'a entraînée dans son truc, quoi, et je suis contente. Et je suis vraiment fière que mon père fasse ça, du coup, voilà, c'est cool.
Bah écoutez, en tout cas, c'était à tout hasard que je vous ai interviewé et je suis très contente de l'avoir fait. Je vous souhaite une très belle soirée, mesdemoiselles.
Bah ouais, bah
je savais pas que c'était ta fille.
Ah bah voilà.
Elle m'a communiqué ta passion, voilà. Bonjour Frédéric. Alors on a vu Piège Fatal à Hawaï, un premier film pour entamer donc ce festival Nanarland.
Ah, c'était formidable. une cascade de pin-up à forte poitrine, bien castée, qui s'enchaînait avec de l'action à gogo. Et nous, c'était vraiment formidable. Un scénario abracadabrantesque qui va un peu dans tous les sens.
Et du coup, c'est, je pense pas que ce soit votre première édition, Nanarland ?
C'est la première, oui. C'est la première fois.
Et du coup, vous êtes prêts ? Vous avez pris des vitamines ? Vous êtes... voilà. Parce qu'il y en a qui s'endorment hein, parfois pendant certains films.
Alors en fait, vu le confort de la salle, je pense que c'est le gros risque de s'endormir. Mais ça devrait aller vu la programmation. Les cuts étaient vraiment formidables, les séries de cuts qu'ils ont fait, donc qui est un bon prélude au film. Et je pense que ça va être une très bonne soirée.
Écoutez, je vous remercie à vous, Frédéric. Très bonne soirée, Nanarland.
Dish, my succotash wish.
Sing it, baby.
I couldn't ask for another. No, I couldn't ask for another.
Kim o adam? Bilmiyorum. Bilmiyorum.
Biliyorsun.
Bilmiyorum. Bilsen de söylemem.
Imaginez une phrase excessivement compliquée à dire en français. Vous l'avez ? Maintenant, imaginez-la en turc. Et vous comprendrez toute ma douleur au moment de vous donner le titre du second film de cette soirée, En Buyuk Rumruk. Je suis en totale galère au moment où je le dis. Désolé si vous comprenez ou si vous parlez le turc, mais là, c'est tout ce que je pouvais vous donner sur ce film-là. Alors, il est intéressant parce que ce film, justement, il évoque un des grands pans de la nanarologie internationale, qui est le cinéma turc des années 60-70, qui était absolument fauché et qui était obligé de tourner des films pour le public turc, justement, en piquant à droite à gauche des images des grands films hollywoodiens et parfois des cinémas d'autres de sphères, mais la plupart du temps des cinémas américains. Et directement, on va constater que ce film-là est d'une folie créatrice absolue, puisqu'on met à peu près tout, du kung-fu, on met une enquête policière, on met un acteur qui fait à peu près tout, qui était le mythique, qui est toujours d'ailleurs le mythique Tunet Arkin, qu'on a surnommé un peu péjorativement le Alain Delon turc, qui a tourné plus de 300 films. Enfin, c'est une véritable légende hein, pour ce cinéma-là. Il a jamais réussi à percer à l'extérieur du cinéma turc. Et là, l'équipe de Nanarland avait sorti ce film de ses placards pour directement le proposer au public, pour qui le film a relativement été éprouvant. Moi, je vous propose quelques extraits et après, on écoute encore les réactions du public que Rebecca nous a récoltées pendant cette soirée.
1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. T'es sûr que c'est branché ?
Çok mu seviyorsun ? Canımdan çok. Konuşmazsan canını alacağım.
O da benim öcüm abi.
Alain, Leslie, bonsoir. Donc je commence par qui, Alain ou Leslie ? Qu'est-ce que vous avez pensé du tempérament de Murat ?
Comment dire ? Explosif, imprévisible. Je sais pas, c'était extraordinaire. Vraiment.
La traduction était pas mal, hein, quand même.
Ah ouais. C'était. Bah heureusement qu'il y avait une traduction, quand même.
Au niveau du découpage du film, qu'est-ce que vous en avez pensé par rapport à la façon déjà dont il a été présenté par l'équipe ?
Bah, le découpage, ça donne vraiment l'impression que le film il faisait 2 heures à la base et qu'ils ont coupé à la hache. Parce qu'il n'y a aucun raccord. Même en termes d'étalonnage, dans les couleurs du film, il n'y a aucun raccord. Le cerveau il vrille parce qu'il n'arrive pas à faire des liens entre d'un plan à l'autre, c'est une torture.
Là, c'est le monde des ellipses. Hein.
Oui, c'est ça. Ouais, en plus, comme on voit les scotch à chaque début de plan, donc on voit les coupures qu'il y a eu, c'est incroyable. Il y a une musique qui se lance, ça coupe dans le vif et ça passe à autre chose. On ne comprend pas le film.
Ah bah oui, ça provoque l'hilarité puisqu'on comprend rien, du coup on réagit comme ça, mais c'est plutôt cool finalement.
Je vous souhaite une très bonne soirée.
Beni konuşturamazsınız.
Ötekiler de konuşmadı ama öldüler.
Ben hayatımı ona borçluyum.
Ya çocuklarım?
Çocuklarım da o kurtardı.
2 sene hapiste yattım onun yüzünden. Onu buluncaya kadar.
Bonsoir Marcus. Graffiti cinéma. Tu m'en mets ? Oui. Oui, alors qu'est-ce que tu penses de cette édition, là, cette 20e édition, avec cette opération coup de poing et Murat ?
C'est monstrueux. Bah écoute, ça nous a tellement manqué avec une année de Covid où on n'a pas pu venir. Moi, je viens tous les ans depuis 5 ans, je crois, à peu près. Et chaque fois, c'est un régal de découvrir des nanars incroyables. Et puis, il y a le nanar en soi qui est déjà fabuleux. Et puis, l'ambiance du Grand Rex de la salle avec tous les gens qui participent. Qui renforce le film, c'est-à-dire même c'est vraiment pas des chefs-d'œuvre. Il y a des moments où c'est un peu nul, et c'est la salle qui fait le spectacle et qui prend le relais sur les films. Et c'est génial, vraiment. Il y a des trucs improbables. On vient de voir le Alain Delon turc en train de tataner des centaines de mecs en cagoulé. C'était incroyable. Là, on va attaquer sur un documentaire sur la luxure en Suède. C'est complètement improbable et c'est génial. Enfin, moi, je reviendrai là toute ma vie jusqu'au bout.
Donc que des surprises. Et qu'est-ce que t'as pensé du tempérament de Murat ?
Oh bah c'est pas quelqu'un de très recommandable hein, comme la plupart des gens qu'on voit dans ces films. Ils sont assez terribles. Donc voilà, il y a des running gags. C'est une affaire d'homme. C'est pas un truc de gonzesse. C'est des trucs qui reviennent tout le temps. Alors c'est drôle, à chaque fois la salle se met à la huer, voilà. Alors il progresse vers la fin du film, il arrête, il fait un peu moins le macho, mais il y a encore beaucoup de travail, le pauvre. Voilà, j'espère qu'il s'est repenti depuis. Mais c'est très drôle, c'est vraiment des films d'une autre époque, c'est incroyable quoi.
Avec le découpage est assez farfelu. Hein.
C'est totalement épileptique, c'est très confus, on comprend rien à ce qui se passe. Bon, faut dire qu'ils ont récupéré des extraits de films américains pour les scènes de poursuite. Alors, le film, on a l'impression que c'est un jour sans fin, ça tourne en boucle, c'est-à-dire, ils discutent dans un café, après il y a une poursuite en voiture, après ils se tatanent, et après ils retournent boire un coup, ils repoursuitent en voiture, recoup de tatane. C'est un jour sans fin, ça boucle sans arrêt, quoi. C'est trop quoi. Puis la bande son est incroyable, ça t'arrache les oreilles. On comprend rien à ce qui se passe. C'est magique. Je me dis, je sais pas comment des gens à l'époque ont pu prendre ça au premier degré. Paraît difficile de le prendre autrement qu'au second degré, avec nos yeux d'aujourd'hui, de 2021. Mais voilà, peut-être qu'à l'époque, ça paraissait normal tout ça, je sais pas.
Mais c'est vrai qu'il y a un petit peu désert de loin, Nicky Larson, du coup.
Alors complètement, oui, Fabien a suggéré ça avant la présentation du film en disant que c'était un peu le Nicky Larson turc. Et c'est ça le côté un peu égrillard, le côté de la gaudriole. Il y a pas mal de rigolades en fait. Il y a plein de petits gags dans les combats. Il lance sa chaussure en l'air, il la rattrape, il tape un mec. Il se reluque les fesses. Enfin bon, il y a vraiment des trucs. Ils mettent des filles en bikini avec des jumelles. Donc, il y a le petit côté un peu obsédé sexuel qui est quand même tourné légèrement en dérision. On sent qu'il y a quand même un peu de dérision quand chaque fois qu'il fait, c'est pas une histoire de gonzesse, c'est un truc d'homme et tout. Je pense qu'il y a quand même heureusement un poil de dérision là-dedans, quoi.
Au niveau des dialogues, c'est vrai qu'on retrouve hein, cette dérision.
Oui, alors je parle très mal turc, à part commander un kebab en turc, pas capable de faire grand chose. Mais ouais, on sent que il y a quand même ça se prend pas totalement au sérieux. Mais il y a quand même une volonté de montrer de l'action, de la bagarre, le truc, et tout ça au premier degré au final. Heureusement qu'il y a des petites touches d'humour pour alléger un peu le truc, parce que il y a des scènes épouvantables où on tue son fils sous ses propres yeux, un pauvre enfant de 10 ans qui se fait étrangler par le sosie turc de requin dans James Bond. Voilà, c'est des scènes qui sont censées être émouvantes et nous on en rigole parce que c'est tellement exagéré que c'est pas crédible quoi, c'est drôle.
Je te remercie, Marcus.
Onu boşuna arıyorsun. Nasıl olsa o seni bulacak. İntikamımı alacak. Sen onunla uğraşamazsın. Onunla kimse baş edemez. O intikamımı mutlaka sizden alacak.
Onu bulacağım.
Sur Nantes, une radio en Belgique.
Bah, je m'appelle Louise Antonioze, et je suis là avec mon cousin qui lui vient avec sa bande depuis plusieurs années. Ça s'appelait encore les Nuits Excentriques avant, et il nous a demandé l'année dernière, avant celle du Covid, de venir avec mes trois sœurs. Et depuis, bah, on a adoré. Et du coup, bah, on y va avec sa bande et bah, c'est génial. Et puis l'ambiance, tout le monde fait des blagues à droite à gauche et c'est vraiment sympa, quoi.
C'est vraiment énorme. Alors, qu'est-ce que vous pensez de Mourad et des deux premiers films que vous avez vus, le premier déjà ?
Alors, le premier, j'ai bien aimé parce que c'est vraiment le nanar avec un minimum de scénario pour que ce soit intéressant, mais toujours aussi nul. Et le deuxième, j'avoue que j'ai commencé à somnoler parce que la longueur des batailles et tout. Mais tous les autres films qu'ils avaient passés les années précédentes, ils sont excellents à chaque fois, quoi.
Le premier titre, en fait, c'était Hawaï, c'était...
Piège mortel à Hawaï.
Piège mortel à Hawaï, oui.
Le monde entier vous exprime toute sa reconnaissance.
Ça fait toujours plaisir.
Le fait qu'on montre des seins, des femmes dénudées régulièrement, l'attirance des hommes sur les femmes.
Ça, après, c'est le male gaze, le regard de l'homme. Donc, dans les nanars, c'est souvent ça, c'est même tout le temps ça. Donc, bon... En même temps, je peux pas aller voir des nanars et me dire « Oh là là, c'est pas du tout féministe !» Donc bon, ça, je peux pas trop y changer, quoi.
On m'a aussi dit en fait que j'ai eu quelqu'un qui suit Nanarland depuis des années et qui m'a dit qu'il a retrouvé dans ce film en fait un côté féministe. En fait, parce que c'était des femmes guerrières, c'était des femmes qui elles restaient pas, on va dire, en retrait.
Bah, c'est vrai que dans les nanars, c'est pas souvent que les femmes ont le rôle principal. C'est souvent voilà
les pots de fleurs,
l'intérêt romantique du personnage principal. Elles se battent, mais non en fait. Donc là, c'est sûr que bah par exemple pour le piège mortel à Hawaï, et là au moins elles se battaient. Donc même si c'était quand même sexiste, au moins elles avaient un premier rôle, elles se battaient, elles faisaient des choses quoi. Donc bon, c'est sexiste, mais bon, on a un meilleur rôle.
Et donc pour les shortcuts, je voulais savoir, vous en avez un qui vous a plu davantage?
Je pense que c'est la course poursuite, parce qu'il y avait vraiment une différence de lumière. C'était tellement flagrant qu'on n'arrivait même pas à faire le lien dans la tête des deux scènes qui présentaient. Les autres, ça allait encore parce que c'était toujours la nuit, mais celle de la course poursuite, c'était en pleine ville alors qu'ils montraient qu'ils étaient dans des dépôts de base. Enfin, c'était incompréhensible le truc quoi. Alors avec mes sœurs, on vient de Caen. Et eux, de base, ils venaient de Haute-Savoie, mais après, ils y bougent tous, donc on vient tous un peu partout de la France, quoi.
Mais c'est énorme, en fait, parce que Nanarland, ça réunit, on va dire, hein, des gens de toute la France.
Bah ouais, carrément. De base, en plus, c'était vraiment... ça avait commencé à Grenoble, il y avait 400-300 places, et ça a vraiment grandi au point de ramener des gens de toute la France sur un thème que, je pense, pas beaucoup de gens auraient pensé que ça allait ramener des gens, genre des films pourris... Du coup, c'est vraiment incroyable. Et puis, c'est vraiment, vraiment bonne ambiance. Donc, c'est ça qui est dingue. C'est des gens de partout de la France qui se connaissent pas, mais qui font tous des blagues ensemble. Donc, c'est excellent.
Et du coup, est-ce que vous pensez que Nanarland, c'est pour des grands cinéphiles ou c'est vraiment ouvert à tout le monde?
Un peu tout le monde. On peut ne pas regarder souvent de films et regarder ça parce que c'est marrant. Des cinéphiles peuvent venir voir ça pour juste parce que c'est marrant, pour se vider la tête, pour voir vraiment la différence des films qu'ils regardent d'habitude. C'est pour tout le monde, il n'y a pas de public précis, quoi.
Voilà, faut être éclectique dans la vie. Je crois que c'est le plus enrichissant.
S'il faut avoir une catégorie spéciale pour regarder des nanars, je vois pas laquelle ce serait, quoi. À part seulement regarder des films nuls, donc je vois pas laquelle ce serait. Donc c'est vraiment des gens de...
Mais comment vous vendriez, comment vous donneriez envie aux gens qui connaissent pas Nanarland d'aller à Nanarland? Pour décrire Nanarland, vous diriez quoi en quelques mots?
C'est des films tellement nuls qu'ils en deviennent marrants et tout le monde en rigole. Je sais pas. En même temps, c'est vraiment juste ça, quoi.
C'est convivial.
Voilà. C'est
voilà. Convivial. Bah, je te remercie en tout cas d'avoir donné ton temps. C'est très cool, surtout que c'est toi qui es venu à moi. C'est très gentil. Bonne soirée à toi.
Merci.
De rien.
Alors, le Mondo, je connaissais pas. Je sais pas si vous connaissiez, vous. La Mondovision, je connaissais d'autres trucs où il y avait Mondo dedans. Mais le Mondo, je ne savais pas que c'était des faux documentaires. Ou en tout cas des documentaires qui avaient la prétention de paraître vrais au public, qui sortaient beaucoup dans les années 60-70. Et qui, pour le coup, montraient une réalité complètement biaisée qui était née dans la tête des auteurs. Alors, cette année, il y avait peut-être le film le plus intéressant à mes yeux de la programmation, qui était ce Mondo, donc, qui s'appelait Suède, Enfer et Paradis. Qui racontait en fait dans un angle relativement biaisé la vie des Suédois dans les années 70 et qui nous racontait directement sous le prisme du journalisme d'investigation un film qui était bourré de clichés et bourré également de propos absolument odieux et terriblement datés sur ce modèle de vie et la social-démocratie à la suédoise. Alors le film, on le doit à Luigi Scattini, il date de 1968. Et dans ce pseudo-reportage qui est porté en français par la voix de Jean Topard, qui est un ancien acteur du TNP, qui était notamment pour les moins jeunes d'entre nous la voix de Zeus dans Ulysse 31, on a un décalage absolu et incroyablement drôle aujourd'hui de le revoir, évidemment, sur des yeux qui sont totalement éduqués à ces documentaires, ces mockumentaires, même qu'on a eu dans des périodes de conspirationnisme comme tel que nous vivons. Et alors là, c'était peut-être le film le plus tordant de la soirée. Suède, Enfer et Paradis, je vous propose la bande-annonce pour finir ce tour d'horizon des films et de cette nuit Nanarland qui nous a porté ce 25 septembre. Le dernier film, c'était Strike Commando, un film du Vietnam relativement mineur, évidemment, puisqu'il était dans une nuit Nanarland. Je peux pas vous en parler parce que j'étais trop fatigué pour ça. J'ai à peu près ronflé pendant tout le film. Allez, un petit extrait de Suède, Enfer et Paradis. Et on se retrouve juste après avec les amis pour débattre de l'actu et puis également de la question du nanar. Est-ce que c'est normal encore à nos âges relativement avancés de continuer à regarder ces très mauvais films pour comprendre et peut-être apprendre également le cinéma?
Il y a bien longtemps que la Suède n'a pas été en guerre, depuis la fin du XVIIIe siècle. Pour personne et contre personne. Elle n'en est pas moins prête à y faire face. Elle a une aviation, une marine, une petite armée de réservistes. Et pour marcher avec son temps, il lui fallait un abri atomique. Les autres ont des bombes atomiques, les Suédois ont un abri. Naturellement, il a été construit à la suédoise, c'est-à-dire de la meilleure, de la plus moderne façon, afin de sauver la race au cas où le reste du monde deviendrait un immense cimetière.
Près du square, Viviani, j'ai rencontré Nanner, l'anarchiste. Et il m'a dit,
toutes ces bagnoles et tous ces buildings et tous ces guignols qui font des meetings, tous ces pauvres mecs qui nous embouteillent, qui bouffent le beefsteak de ceux qui essaient. Je cherche un coin de terre avec du bleu, avec du vert. Je cherche un coin d'azur avec des fleurs et puis l'eau pure. Toutes ces nanas qui sont pas putains, pour du cinéma je te montre mes seins. Tous ces petits minets qui se mettent à gueuler.
Et nous voilà donc réunis sur nos tables virtuelles au sommet avec la bande de la deuxième partie de l'émission. Nicolas qui était avec nous ce soir, bonsoir.
Bonsoir.
Et Thomas qui était avec nous ce soir, bonsoir également Thomas.
Bonsoir également Thomas.
Hein, ça fait assez cérémonieux comme ça. Hein,
côté, ouais, c'est bien, j'aime bien.
Ça nous rappelle le bon vieux temps du confinement, puisque dans la deuxième partie de cette émission, nous l'enregistrons en ligne pour justement réagir à cette nuit nanarlande, puisque vous avez entendu dans la première partie de notre émission, donc tous ces retours sur la nuit nanarlande, une programmation qui a été très attendue pour les 20 ans nanarlande, surtout après une année qui avait évidemment été annulée à cause du Covid. Moi, la question que je voulais vous poser, celle que je dévoilais en début d'émission, c'est à votre avis, faut-il pour vous, les gars, continuer à regarder des nanars? Et si oui, pourquoi doit-on encore continuer à regarder des nanars maintenant, en 2021, pour des grands garçons et des grandes femmes comme nous tous, finalement, de cette génération des années 80? Nicolas, par exemple, pour commencer.
Ouais, moi je pense qu'il faut encore regarder des nanars. Après, est-ce qu'il ne faut pas aussi se laisser porter par les surprises de nos petits parcours cinématographiques en cliquant sur des Amazon et des Netflix? Peut-être que le côté programmation avec ce côté un peu institutionnel du truc est un peu passé. Moi, j'ai un petit peu cet état d'esprit-là quand je vais maintenant dans des petits festivals ou des petites choses comme ça. Souvent, justement, on cherche, t'en parlais sur la programmation, mais truc un peu exotique, turc, machin, qu'on a vraiment du mal à regarder. Et peut-être qu'il y a une limite à ce format de festival. Je sais pas, je me pose la question.
C'est vrai que c'est très intéressant parce que on peut le dire pour nos auditeurs. Alors il y en a certains que vous l'avez entendu dans leur portail, la partie reportage de l'émission, et qui découvraient Nanarland et qui étaient tout à fait enthousiastes. Et il y avait des vieux de la vieille, notamment un qui répond aux questions de Rebecca, qui était là depuis 14 ans. Donc Thomas, on est à peu près dans une catégorie intermédiaire avec Nicolas. On en a fait à peu près une moitié. Qu'est-ce que tu penses justement de ça?
C'est vrai que nous on a été au le premier, c'était le numéro 3, je crois.
À la Cinémathèque.
À la Cinémathèque. Et c'est vrai qu'il y avait ce côté... c'est un peu comme quand tout devient un peu plus... pas dire le mot, mais hype ou mainstream, grand public. Les aficionados, ils ont l'impression de se faire déposséder d'une chose qu'ils avaient trouvée. Un peu comme les... je reviens sur les fans de Star Trek. Peu comme sur les fans de Dune maintenant, à la limite. Parce que ça devient, on en a déjà parlé, mais ça devient un peu plus grand public. Et on se dit, j'ai perdu ce qui faisait un petit peu de le sel du truc. Alors, ça ne veut pas dire que les films ou la programmation sont moins bons. Ça arrive des fois que les films soient moins bons. Mais il y a aussi une idée que ça va être compliqué de, si, à coup de 20 ans et 4 films par an, ça fait déjà 80 films. T'as vu?
Oui. Attention, hein. Non, c'est beau. Le mec, le mec a déjà calculé.
Pas mal. Hein. Non, mais j'ai des
chiffres.
Non, mais j'ai des fiches. Hein. Voilà, j'ai des fiches. Et du coup, on se dit que comme c'est essentiellement des films tournés dans les années 70-80, est-ce que le vivier de films, il va pas commencer à se ressembler? Et effectivement, pour des nouveaux, c'est toujours formidable. Mais peut-être que pour des anciens, est-ce qu'ils ont fait le tour? C'est un peu une question étrange qu'on peut poser. Je vais prendre un exemple. Je voyais le truc. Une fois, j'entendais un gars qui parlait de totalement autre chose. La girafe Sophie. Tout le monde sait ce que c'est. La petite girafe pour les enfants.
Ouais.
Hein, voilà. Et le gars disait, mais finalement, c'est on attend une nouvelle génération.
Oui.
D'enfants qui vont, dont les parents ont connu ça, qui vont offrir ça à leurs parents. C'est ça, en fait. Et c'est peut-être plus maintenant les nouveaux qui arrivent et qui se disent « Waouh, mais c'est formidable, qu'est-ce que c'est que ce truc ?» Un peu comme quand nous, on a découvert il y a 15-20 ans le site internet en se disant « Waouh, mais c'est formidable, il y a des gars qui ont vu ces cassettes vidéo-là, mais il faut absolument que je les voie, il faut absolument que j'aille voir ce film pour partager ça avec ces gens-là. »
T'es en train de dire que tu as vieilli, en fait.
Ouais.
Alors ouais, Thomas, du coup là, il est en train de dire qu'on a vieilli. Effectivement, ça peut être ça. Moi, il y avait une autre réflexion qui me faisait, qui m'était venue en fait tout au long de la soirée, qui vous est peut-être venue à d'autres soirées Nanarland et des prochaines. On n'est pas en train de dire qu'on n'est pas en train d'officialiser un divorce avec le Nanar en pleine émission. C'est juste une réflexion un peu méta filmique sur l'événement et sur le genre. C'est que moi, la réflexion que je me suis faite pendant la soirée, c'est que j'ai la sensation que le Nanar, c'est comme une boucle temporelle qui nous enferme dans une série de films des années 60 aux années 90, hein, très vaguement. Et je me demandais finalement comment repousser les frontières de ce monde-là qui est un peu finalement renfermé sur lui-même, parce qu'on s'aperçoit que c'est très anglo-saxon, que ça, donc c'est sur une période assez fermée de 60, 90, de 30 ans pour compter très très large, et que finalement il y avait très très peu de films français dans les soirées Nanarland. Ça m'avait toujours marqué, alors que potentiellement il y a quand même un paquet de films qui pourraient rentrer dans ces catégories-là.
Ah, c'est vrai qu'il y a un paquet de comédies des années 70, pas très loin des Charlots, mais qui étaient le haut du panier de ce type de comédie, mais des sous-Charlots, quoi.
Oui.
Qui existent, hein, ce genre de film. Nous, on en a sur la Nanarland 3, c'est d'y avait un film français. Le premier,
oui.
Là, sur les belles-mères. Là.
Le congrès des belles-mères de Raoul Cousinet, de mémoire, voilà. Et qui était assez exceptionnel, parce que c'est vrai que c'était un des rares films des années 50, de mémoire, en France, qui pouvait rentrer dans la catégorie nanar, parce qu'il avait effectivement très mal vieilli. Et c'est un des rares films français qu'on a pu voir à des soirées nanardeuses comme celle-ci. La plupart du temps, et j'ai pu en parler avec David Barnier, à qui on fait coucou, qui écoute souvent l'émission, c'est que je parlais avec lui, enfin, j'ai rapidement échangé avec lui sur Piège Mortel à Hawaï quand je parlais de cette émission sur mes réseaux. Et je me demandais si c'était pas la version française finalement qui faisait que ce film était aussi crétin. Et il m'a rassuré, lui qui parle très bien anglais et qui vit aux États-Unis, rassure-toi, en anglais c'est tout aussi débile. Voilà.
Bon, déjà, ça montre bien que le choix de ce film-là, c'est peut-être le bon aussi. Mais peut-être que tu as critiqué ce premier film, toi, sur les réseaux, en disant que effectivement, t'avais ce côté habitude.
Oui.
Tu veux. C'est-à-dire que ce genre de film, tu les as potentiellement déjà vus. Les actionnaires des années 80, comme Samurai Cop.
Eh oui.
Mythique, il y a 3-4 ans. Samurai Warrior, c'était.
Non, c'était pas Samurai Cop. On a vu Samurai Cop.
C'est un autre.
On les a potentiellement déjà vus. Le l'aspect nanar du doublage, ça fait une énorme grosse partie du film. Et effectivement, c'est ce que je reviens là-dessus, pour des jeunes, plus jeunes qui moins habitués, ils se disent ouais, c'est génial, c'est très drôle, ils le découvrent de la même façon que nous. Et nous, on a, enfin moi, j'ai un petit peu cet aspect de vieux qui s'est tourné vers autre chose, quoi.
Ouais.
Et donc ça n'enlève pas du tout la qualité des choses. Peut-être le fait que ce soit au Grand Rex, il y a un côté énorme Barnum,
oui,
et un peu moins intimiste. Mais c'est toujours pareil, hein, on va revenir sur d'autres, pareil, hein, sur les premières conventions de Star Trek. Je suis sûr que les mecs se disaient c'est super intimiste entre nous. Maintenant, bah, tu dois acheter ta place, tu dois la précommander pendant je sais pas combien de temps, ça coûte 150 euros pour aller au Comic-Con. bon, bah, tu t'es plus dans le même, c'est plus le même business, quoi.
On rappelle que le Grand Rex, c'est 2700 places. Hein. 2700 oui. places pour le Grand Rex. On le rappelle, si vous y êtes jamais allé, bon, bah, c'est la plus grande salle d'Europe, hein, tout simplement.
Non, mais oui. Donc, on met pas en cause le fait que, la salle soit formidable. Enfin, c'est toujours, c'est un événement d'avoir un film là-dedans. Hein. Je veux dire, c'est incroyable.
Mais, même pour un film de Mouloud Achour, c'est un événement.
Ah, je sais pas si film de Mouloud Achour sera dans la grande salle. Ouais, là, je pense que...
Si, c'est... ils ont fait l'avant-première du film de Mouloud Achour au Grand Rex, les méchants, donc c'est pour ça que je me permets la vanne. Bon, j'ai pas vu, mais comme je sais qu'il se fait à peu près massacrer sur les réseaux.
Il se fait même massacrer sur son propre plateau. Hein. je sens qu'il a pris du recul sur ça. Hein, parce que...
bah, justement, on parlait de films français dans les nanars. Pourquoi pas les méchants, puisqu'on avait déjà vu pas mal de films plutôt très mauvais, ou alors également, je dirais, surintellectuels, un esprit très cérébral, un peu à la Neil Breen finalement, qui est un réalisateur américain, ou The Room, voilà, enfin, les nanars, voilà, il n'y a pas de juste milieu, hein, c'est ou très complètement crétin et les gens n'ont pas conscience, ou alors très très très intello et les gens n'en ont pas conscience. Quand ils en ont conscience, ça pose un autre problème, parce que là, ce sont des faux nanars, à l'image de ce que font les studios The Asylum aux États-Unis avec Sharknado. Sharknado versus ce petit Rakuda et tout ce genre de conneries, où là, ils le font volontairement, évidemment, parce que c'est devenu un véritable marché. Mais cette question-là, finalement, sur la longueur de l'événement, cette année, vous l'avez entendu dans nos sons, on n'a pas eu de personne de l'organisation pour le faire, parce qu'on voulait repartir sur des spectateurs et avoir ces sons-là. Mais c'est vrai que je voulais l'évoquer avec vous, parce qu'on y retournera de manière de façon très volontiers. Mais cette réflexion sur le long terme est quelque chose qui peut un petit peu nous occuper.
Je te coupe là, mais...
Oui, tu m'as coupé. Merde.
J'ai l'impression que même l'organisation, c'est un peu rajeuni.
Oui.
En termes de bureau, dans l'association La Narland et dans les organisateurs, ils ont un peu... ils ont rajeuni. Donc du coup, même eux se passent une sorte de relais, quoi. Se disant... voilà, à nous de faire redécouvrir aux plus jeunes, et puis on continue l'aventure. Alors c'est formidable que ça continue, parce que il y a quand même un côté un peu patrimonial. C'est pas un gros mot de dire ça, mais c'est un peu patrimonial quand même, quoi. Ils ont édité des DVD, ils ont sorti des films, ils sont allés voir des copies introuvables. Quand ils en parlent à chaque fois, c'est exceptionnel d'avoir
les fameux cuts que Rebecca appelait les short cuts pendant le reportage. Ça m'a fait rire et je l'ai gardé parce que c'était très rigolo. Et puis évidemment, les cuts, en fait, c'est des petites scènes qui sont extraites de ces nanars là et puis voilà, quoi. Nicolas, pour un mot de la fin sur les nanars.
Ouais, je voulais revenir à ce que par rapport à ta question initiale. En fait, tout le monde fait du nanar aujourd'hui.
Oui.
Tu vas au festival de Gérardmer, ils ont une programmation bis à je sais plus quelle heure du matin, où ils passent 3-4 films pareil, un peu nanar. Sur Paris, il y a beaucoup comme ça de petits festoches, de petites programmations, de petites salles qui te font du nanar tout au long de l'année. Voilà, t'as du nanar tout le temps, et c'est vrai que du coup, peut-être que ça a perdu un peu son côté exceptionnel. Du coup, on est un peu plus habitué à ça, et puis le mode de consommation fait aussi que on accède plus facilement à ces trucs-là. Avant, c'était, il y a 20 ans, c'était quand même extrêmement dur d'aller choper ces pépites en VHS, des trucs importés, improbables. Aujourd'hui, en un clic.
Ah bah, Piège Mortel à Hawaï, vous le trouvez sur YouTube. Le film turc qui est passé avant, c'était sur des VHS. Il y a des fous, notamment une des personnes que Rebecca interroge dans les premiers. Il dit que le film turc qu'on avait vu ce soir-là, il l'avait regardé en VO non sous-titré sur une VHS crado, alors qu'il parle pas turc. Donc vous imaginez le degré de motivation. C'est à la lisière du cinéma expérimental, hein, là pour le coup. Et en tout cas, évidemment, comme d'habitude, un immense respect à tous ces gens-là. On a passé un bon moment, mais c'est vrai que sur le long terme, on commence petit à petit à se poser cette question-là, puisqu'on voit qu'il y a des nouvelles générations qui arrivent dans cet univers-là, qui apprennent le cinéma par là, parce que il y a beaucoup de grands penseurs. Alors, grands penseurs, je ne le dis pas ironiquement, hein, il y a des théoriciens du cinéma comme Jean-Baptiste Auré, je le cite souvent, qui s'inquiètent de la cinéphilie des jeunes générations. Moi, sincèrement, je préfère aller voir regarder des nanars que de bouffer que du Marvel. Alors, on va parler de Marvel, qu'on aime beaucoup, hein, mais regarder que du Marvel, ça montre un manque de recul sur le cinéma qu'il faut avoir et qu'on gagne en tout cas en regardant des nanars, et d'où ma réflexion de fin avant de lancer notre petit débat ici et avant de parler de l'actu, c'est que est-ce qu'on peut, on peut comprendre et je dirais peut-être également apprendre le cinéma par ces films finalement très médiocres, hein, pour le coup. Voilà, c'est un beau mot de la fin, là je vous ai bien séché. Mud float up in a lump's pajamas.
she's not, she might be dead.
On va évoquer en fait ce qui nous a plu ces dernières semaines, parce que c'est vrai qu'avec nos thématiques du mois de septembre et d'octobre, on n'a pas forcément réussi à intégrer tous les trucs qui nous ont plu et qu'on a pu voir cet été ou avec cette rentrée. Et pour le coup, Thomas, tu veux nous parler de Candyman, le remake, ouais. Enfin le remake, la suite plutôt, parce que tout le monde le présente comme un remake, mais c'est la suite du film de 92.
Alors Candyman, c'était attendu sans être attendu. En fait, c'est étrange parce que c'est un personnage un peu de... dans la veine de slasher movie de la fin des années 80, c'est sur la queue de comète quoi, avant le retour de Scream. Et du coup, quand on a présenté le projet, je disais bah ouais, super, on va revenir à ça, c'est un cycle, on va revenir à des tueurs en série un peu dégueu. Bon, je veux dire, c'est cool quoi. Et puis là, on se retrouve avec un film qui donne une promesse, mais qui, pour moi, je trouve qu'il la tient pas. En fait, c'est-à-dire qu'on se retrouve avec un film très très arty, comme je dirais. C'est un film où la lumière est très léchée, la mise en scène et c'est réfléchi, c'est intéressant. Il y a des plans superbes, superbement bien éclairés. Surtout, on en parlait tout à l'heure. Il y a un très très beau travelling. Dans une sorte de couloir, dans une sorte de tour, moi ça m'a fait tout de suite penser à l'éclairage aussi de Shining, où ce genre de plan est très très léché. Alors c'est superbe, ça raconte l'histoire c'est assez étrange.
On est à Chicago, on a un artiste qui est un peu paumé quoi, et qui fait une sorte de pack faustien avec le fantôme, en gros les fantômes du film de 92 quoi.
C'est ça. Donc du coup toute cette partie sur la gentrification de Chicago, on est dans un monde très bourgeois, extrêmement bourgeois, avec des marchands d'art, donc il y a toute cette facette de la représentation du moi, tout le monde joue un rôle dedans, tout le monde s'est très théâtralisé, chacun veut faire partie de ce monde très chic. Il y a une discussion d'ailleurs en se disant est-ce qu'il faut pas déménager à New York parce que c'est là que ça se passe, et là on se retrouve là vraiment on va rentrer dans le vrai sujet. En gros, on va quitter cette ville d'un peu de pécor pour aller vraiment là où ça se passe quoi. Mais c'est pas dit comme ça, mais ça c'est ce qui transparaît. Et du coup, on a, si ce film il avait été uniquement là-dessus, peut-être que ça aurait été un bon film pour niveau social, dire regardez, il se passe ça dans les villes, c'est en train de se passer. Mais derrière, on nous met des séquences d'horreur qui sont pas filmées. Ouais. Mais j'aurais préféré que le film se dirige soit vers l'un, soit vers l'autre.
Ouais.
Et c'est pas un peu la patte du producteur, Thomas?
Ben voilà. Et on retrouve Jordan Peele à la production, donc Get Out.
Oui, oui.
Pour bien se le remémorer, Get Out. Et on se retrouve dans ces questionnements sur les Noirs américains. C'est vraiment un truc qui, c'est ce qui guide dans sa filmographie. Nous, en tant qu'Européens, même presque français.
Français, oui, oui, plutôt. Oui.
Je trouve que ça nous, ça, on est très porté sur l'universalisme des choses, à l'inverse des Américains qui sont très portés sur l'aspect communauté. C'est la communauté qui prime. Et du coup, ça pose aussi des questions sur l'aspect de peine de mort et de vengeance, qui est un peu perturbant dans notre esprit, dans notre esprit, je dirais typiquement français, de se dire que effectivement, bah, c'est pas, on spoile pas effectivement grand chose, mais c'est que la vengeance, elle est acceptée et elle est mise en avant comme étant naturelle. La communauté noire américaine, on a eu tellement marre de voir des films.
Oui, oui,
justement,
tout à fait.
À l'opposé, en se disant, oh, il faut qu'on fasse quelque chose. Nous aussi, on a le droit de raconter notre histoire, mais je sais pas si ça fait réellement avancer le fait de pouvoir vivre ensemble entre communautés pour eux, quoi.
Au moment où on enregistre, on vient d'apprendre la disparition de Melville Van Peebles, qui était le chantre, en gros, de la Blaxploitation, qui était, en gros, le cinéma des Noirs pour les Noirs. En réaction, en gros, aux États-Unis, au cinéma institutionnel qu'il est représenté par. À l'époque, quand la Blaxploitation se développe dans les années 60-70, il n'y a que Sidney Poitier, en gros, qui arrive vraiment à être connu. Donc, il y avait eu ce mouvement de la Blaxploitation qui est absolument fascinant et qu'un réalisateur comme Tarantino intègre tout à fait à sa filmographie et dans sa démarche créative. Là, en 2021, ils vont faire un gloobie-boulga assez dangereux, je pense, et toxique, potentiellement toxique, je ne vais pas le juger, mais potentiellement toxique, parce qu'ils vont le mêler aux violences policières, donc George Floyd récemment, et ça va venir faire un amalgame de colère et de rancœur potentiellement très, enfin pour moi en tant que cinéphile, hein, même potentiellement très dangereux.
Surtout que Candyman, ce final là, ça tombe un peu comme un cheveu sur la soupe pour le coup, parce que la police, on la voit au début, on comprend pas trop bien, on sent qu'il y a une bavure mais qui est pas vraiment amenée, et à la fin, là c'est clairement une bavure. Pour le coup, c'est clairement une bavure qui est montrée,
oui.
et pendant. Pendant 1h20 dans le film, tu les as pas vus. On n'a pas eu de contact avec l'institution. Il n'y a pas eu de police, rien du tout. Et ça encadre le film un peu.
Voilà.
J'ai l'impression qu'on a voulu faire passer ça au forceps.
Oui, exactement.
C'est ce que je voulais dire, Thomas. C'est pas trop. Moi, d'après ce que tu dis, je compare ça à Us. Je sais pas si tu l'avais vu.
Oui, Us, bien sûr.
C'est un peu à la truelle, en fait. J'avais trouvé ça un manque de finesse et de subtilité. Du coup, ça me fait un peu peur, là, ce que tu m'annonces, quand même.
Bah, c'est dommage dans le sens où plastiquement, le film.
Il est magnifique.
Il y a un énorme travail. On sent que tout le monde s'est mis dans la même direction, quoi, pour que tout aille dans cette direction très très très très très fluide, très très élégant. Voilà, c'est dommage, quoi.
Bon, il y a vraiment du cinéma qui travaille et qui se met à la hauteur, oui, du sujet, mais c'est vrai que là, pour le coup, le sujet, sous des apparences très développées, oui, est relativement maigre. Et il nous reste 5 minutes, et c'est vrai qu'on voulait parler de Candyman, et c'est un film très intéressant, et on va, il est sorti la semaine dernière.
Ouais, voilà.
Et c'est vrai qu'il nous titille, en tout cas, pour faire ce cinéma de la Blaxploitation aux États-Unis. Et ça, bon, en tout cas, j'en ai très envie. Nicolas, en 5 minutes, on va parler, en fait, de deux de tes coups de cœur. Le premier, c'est la série Fondation. Et tu voulais aussi nous parler d'un film qui se contente d'une seule voyelle en guise de titre, qui s'appelle Y. Et je trouve ça un petit peu con, clairement. Tu veux commencer par Fondation?
Ouais, moi je voulais parler de Fondation 2 minutes. Alors on n'a pas vu grand chose encore de Fondation. La série vient de sortir sur Apple. Moi ça m'a fait un peu un effet étrange, parce que j'ai vu Fondation le lendemain d'avoir vu Dune. Dune, j'avais vraiment l'impression d'être dans un sous-sol de chez Ikea. Voilà, je suis un peu dur par rapport à... Je viens d'écouter votre émission, donc c'est vrai que j'étais parfois un peu d'accord avec vous. Alors attention, hein, des chefs-d'œuvre comme ça, j'aimerais en voir tous les jours, mais je trouvais qu'en termes d'imaginaire, de décor, de d'autres planètes, j'étais un petit peu laissé de côté. Et quand j'ai vu Fondation, alors attention, c'est de la série télé, hein, qu'on soit bien clair, donc on voit que ils ont mis les moyens, mais on n'est pas quand même du niveau de Villeneuve, qu'on soit bien clair, hein, en termes de mise en scène et tout ça, et ça reste de la série télé. Mais par contre, là, j'ai eu un espèce de décalage énorme et positif, du coup, avec Fondation, puisque on a vu de belles planètes, on a vu de beaux costumes, on a vu de beaux vaisseaux spatiaux. Je suis parti ailleurs, alors que moi, clairement, sur Dune, j'étais vraiment un parking souterrain de chez Vinci un soir de
de tempête. Voilà. Donc c'était beaucoup plus emballant pour moi Fondation que Dune. Je suis désolé pour Mathieu qui nous écoute.
Voilà. Non mais c'est vrai aussi que le problème de Dune, c'est que c'est une histoire qui maintenant était peut-être trop adaptée et qu'on connaît tous les ressorts scénaristiques, et comme c'est à chaque fois qu'il y a eu une adaptation de Dune, ça a chaque fois été très très attendu. C'est des histoires qui ont été très décortiquées. Donc en gros le tunnel de Paul Atreides, qui est une machine à spoiler à lui tout seul parce qu'il nous raconte la fin du film avec toutes ses visions, un gars comme ça dans le silence des agneaux, il aurait été galère. Mais bon.
Ça reste une bonne série. Alors, adapté du bouquin d'Isaac Asimov, ils ont épuré pas mal de choses.
Oui, ils ont changé un personnage. Parce qu'il faut le dire, alors, moi j'adore Isaac Asimov, mais pour la toute petite histoire, en 20 secondes, Isaac Asimov, il n'était pas très féministe. Hein, il était même un peu touche à tout. Il a eu beaucoup d'emmerdements, pour le dire très clairement, parce qu'il était très tactile avec les femmes. Hein, il les respectait pas vraiment. Et il y a un des personnages donc, qui est devenu une femme. Ça change pas grand chose à l'histoire au final, et je trouve ça plutôt malin au final. Et moi pour le coup là, je l'ai pas encore vu, j'ai très très hâte de le voir sur ta recommandation.
Et Y, le dernier homme, un Allez. Comics. C'est pas un film, c'est une série télé donc qui sort sur Disney Plus, okay. Star, qui adapte. Alors c'est une arlésienne, hein, ça fait 10 ans que cette BD elle doit être adaptée. On en a parlé d'un film, on a parlé de mini-série. Pour l'instant donc Y, c'est bah, le dernier homme, c'est dans le titre. En gros, il y a une maladie qui voilà, un virus mortel, une pandémie. Ça nous rappelle des choses. Et il y a plus qu'un seul type qui est toujours vivant parmi toutes ces demoiselles qui sont restées sur la planète. C'est le dernier. On va découvrir le pourquoi du comment. Alors, pour l'instant, ça part bien. Moi, j'ai toujours un peu peur de l'effet Walking Dead. C'est-à-dire que...
Oui. Ah oui.
Walking Dead, rappelez-vous, elle avait quand même... Elle nous tenait en haleine, il y avait un pitch, il y avait un truc.
Il y avait 6 épisodes. Bah, il y avait encore Frank Darabont qui était showrunner.
Donc là, moi, j'ai un peu peur de ça aussi. C'est-à-dire que si cette série, elle s'annonce sur 2-3 saisons et puis qu'elle est bien rythmée, que par rapport à la BD, on sait où on va. Donc en plus, ils ont la matière pour. On n'attend pas de savoir le roman, quand est-ce qu'il va être publié. Tout est là, le contenu est déjà là. Donc s'ils s'imitent au contenu et qu'ils nous font quelque chose d'assez rythmé, d'assez racé, j'ai envie de dire, ça peut être sympa. S'ils partent en plusieurs saisons fleuve, ça va être la limite du truc, quoi. D'accord. Ça nous fera prendre haleine.
Ça nous dit pas, en tout cas, pourquoi il a un prénom ridicule. Personne s'appelle Y.
Si, il s'appelle Yorick, parce que c'est...
Oui, c'est bien ce que je disais, Yorick.
Oui, personne s'appelle Yorick non plus.
Hein. Non, alors ça c'est vache, parce que ça...
Si, moi j'ai un cousin qui s'appelle Yorick,
aïe. Ah oui, mais il est en Creuse aussi. Ah, c'est, voilà, c'est ça, c'est pas gentil. Le pire, c'est que j'ai envie de la garder au montage, cette blague.
On t'embrasse, Yorick.
Cette blague absolument consternante. Il s'appelle pas Yorick Gargaink.
Alors,
d'accord, bon, ça, celle-ci, elle est un petit peu galère, cette blague. Alors, si vous êtes des Yorick, ne vous plaignez pas, s'il vous plaît, c'est un hommage à votre prénom, même s'il ressemble à une marque de yaourt, c'est pas très grave.
La BD est éditée chez Urban Comics, voilà, dans de beaux jolis pavés, elle est disponible et elle est éditée, vous pouvez la trouver partout.
Ben, c'est très très bien tout ça, et parce qu'il va nous rester à peu près 30 secondes en fait pour annoncer ce qu'on va faire la semaine prochaine, parce que là, au moment où on enregistre, eh bien, on est à distance pour évoquer l'actualité et puis le nanar sur lequel on voulait réagir. La semaine prochaine, les amis, on va se retrouver justement pour évoquer évidemment le James Bond qui sort ce mercredi, évidemment. Donc on enregistrera nous le samedi 9 octobre cette émission là on aura certainement une grosse surprise à vous proposer à l'enregistrement. Vous pourrez suivre l'actualité sur la page Facebook Graffiti Cinéma, on croise les doigts, et on recevra également la Bande de l'écran, qui est une association orléanaise qui nous présentera son actualité, notamment des films d'animation qui diffuseront à la Maison des Arts et de la Musique en face du lycée Charles Péguy. Donc ça, c'est très intéressant pour les Orléanais. Nicolas également, on enregistrera, et Thomas, une émission sur les comics. Alors en 10 secondes, hein, on pourra dire qu'on découvrira l'univers de Batman dans les comics, et on verra également que le cinéma travaille dès les pages des comics, hein, pour le Batman. En 10 secondes. Hein. Vous nous le teasez en 10 secondes.
Ah ben on te le tease en 10 secondes. le but c'est de rendre accessible les comics pour les personnes qui ont découvert l'univers, à la limite Marvel, bon là c'est pas Marvel, mais DC Comics, au cinéma, en se disant ouais c'est super, c'est cool, Batman il a une super voiture, mais bon il y a quand même 80 ans de comics. Est-ce que sur 80 ans, qu'est-ce qu'il faut lire, quoi? Qu'est-ce qu'il faut lire? Parce que 80 ans, j'ai pas essayé de faire le calcul en moi, mais ça fait beaucoup.
Voilà, donc ça c'est des trois.
Il y a forcément des récits un peu moins bons. Et du coup, ce qui est trouvable,
voilà,
qui est pas cher,
et où le trouver?
Et vous le trouvez.
Donc là, on est en train de vous annoncer les émissions des trois semaines à venir. Donc il y aura du James Bond, il y aura de la cascade et il y aura du Batman en comics. Donc là, il y aura beaucoup de surprises, hein, dans les prochaines semaines. Merci en tout cas, les amis, d'avoir été là ce soir. À très bientôt, à la semaine prochaine, pour un nouveau numéro. Salut à tous.
Pourquoi vous avez fait ces graffitis?
Pourquoi vous faites ça?
Hein?